C'était On de la Traconte, code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Guillaume Vassot. Eh ben voilà, c'est fini. Salut!
C'était Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe Ondelat que nous retrouvons demain de 14h à 15h. Envie d'ici là de réécouter les récits de Christophe Ondelat? Aucun problème, ils sont disponibles en podcast sur europe1.fr et l'application Europe 1. Très bon samedi après-midi avec Virginie Giraud pour la suite au cœur de l'histoire. C'est juste après les infos de Brendan Varet. Je vous rappelle aussi que ce soir à 19h, Laurie Choleva vous donne rendez-vous sur Europe 1 et passe comme chaque samedi de 19h à 20h en revue toute l'actualité ciné de la semaine. C'est clair, présenté par Laurie Choleva, et Laurie Choleva qui reçoit ce soir Max Boublil à l'affiche du film Neuilly-Poissy en salle mercredi. Elle reçoit aussi Emmanuel Berco pour le film L'Esprit Coubertin qui sort en salle mercredi prochain. Très bon week-end avec Europe 1.
IKEA. On est quand même bien au soleil sur notre balcon. Hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur ikea.fr.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
On en parle.
Reconnaître les signaux d'alerte de l'insuffisance cardiaque est essentiel pour sa détection et sa prise en charge. On en parle avec Sandrine, dont le père souffre d'insuffisance cardiaque.
La Vie Claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Au cœur de l'histoire, c'est juste après les infos. Vous écoutez Europe 1, il est 15h. Et tout de suite, on retrouve Brandon Ouarette pour les informations. Bonjour Brandon.
Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, une délégation du Hamas en Égypte. Elle est arrivée ce matin pour discuter d'une proposition d'accord de trêve dans la bande de Gaza avec Israël, alors que l'État hébreu menace de lancer une opération terrestre à Rafah. Aux États-Unis, 86 parlementaires démocrates exhortent le président Joe Biden à envisager d'interrompre ses ventes d'armes à Israël si le gouvernement de Netanyahou ne change pas de stratégie de guerre. Dans une lettre, les élus appellent Joe Biden à faire pression sur Israël pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire. Et en France, la mobilisation d'étudiants pro-palestiniens pourrait s'élargir. Après Sciences Po Paris et plusieurs enseignements supérieurs, elle pourrait également gagner des lycées. C'est en tout cas ce qu'espère l'Union syndicale lycéenne qui appelle à un blocus des établissements dès lundi. L'actualité en France est aussi Châteauroux et la marche blanche en hommage à Matisse, cet adolescent de 15 ans qui a été tué au couteau par un Afghan du même âge le week-end dernier. Jusqu'à 10 000 personnes sont attendues sur place et la famille de Matisse souhaite que cette marche se déroule dans un esprit serein et solidaire, comme l'affirme sur Europe 1 Brice Taillon, l'adjoint à la sécurité de Châteauroux.
C'est une ville qui est sous le choc, solidaire avec cette famille. Et donc c'est le message de la famille, c'est que tout se passe dans le calme, dans la sérénité et dans la dignité, à l'exemple de ce qu'ils font depuis maintenant une semaine. Il n'y a qu'une famille qui aurait presque la légitimité de vouloir se venger. Et pourtant, cette famille, avec sa dignité, elle est tout sauf dans la vengeance. Ceux qui auraient l'idée de dénaturer ce message de sérénité et de dignité, ce serait le signe évident qu'ils sont justement dans de la récupération. Ce genre de propos est nécessairement inquiétant, mais dans la mesure où le dispositif est dimensionné pour faire face à d'éventuels comportements de la sorte, eh bien les choses se passeront correctement.
Brice Taillon, adjoint à la sécurité de Châteauroux, au micro de Charles Guyard, notre envoyé spécial sur place dans l'Indre. Et la marche blanche en hommage à Matisse doit s'élancer à 15h30 dans le centre-ville de Châteauroux. Une fusillade a éclaté hier soir à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Le bilan fait état d'un mort et de plusieurs blessés, dont trois placés en urgence absolue. Une fusillade que le maire attribue au trafic de drogue. Aucune personne n'a pour l'instant été interpellée. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée et autres fusillade également la nuit dernière à Toulouse. Un homme a été tué près d'une boîte de nuit. Deux autres personnes ont été blessées, dont une qui a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Du sport et du rugby, Clermont rêve de finale. Le club auvergnat affronte en ce moment les Sharks en demi-finale de Challenge Cup. On joue la 63e minute et pour l'instant Clermont gagne 31-25 à Londres et virtuellement finaliste, avec peut-être inscrire dans ce cas-là son nom pour la quatrième fois au palmarès.
Europe 1,
15h03, au cœur de l'histoire, c'est avec Virginie Giraud.
Merci Brandon Ouarette, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'information.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque week-end sur Europe 1 pour plonger ensemble au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui va vous aider à mieux comprendre la Russie et même le conflit en Ukraine. Pour ça, on va remonter loin dans le temps avec un récit sur la tsarine Catherine la Grande et une interview sur le pouvoir en Russie des tsars à Poutine. Commençons donc par Catherine. Cette souveraine a été la plus grande monarque russe du XVIIIe siècle. Elle était allemande et elle a pris le pouvoir en faisant un coup d'État contre son mari avec l'aide de l'armée. C'est en montrant qu'elle était plus russe que n'importe quel moujik qu'elle a séduit les soldats, et c'est en encourageant l'expansion de la Russie qu'elle a défendu la grandeur de sa nation. Grâce à son amant, Grigori Potemkin, Catherine fait main basse sur la Crimée et déstabilise politiquement la région pour étendre son territoire. Ça vous dit quelque chose ? C'est normal. Catherine n'était pas qu'une souveraine guerrière, elle a aussi été une femme libre, une fine lettrée et une grande amoureuse. En dernière partie de l'émission, je recevrai l'historien Pierre Gonneau qui viendra nous parler du rapport au pouvoir des dirigeants de Russie à travers l'histoire. Mais pour commencer, laissez-moi vous présenter Fick, une petite aristocrate allemande qui débarque dans l'étonnante cour de Russie où l'héritier est en quête d'une épouse.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes en Russie le 13 septembre 1762. Catherine fait son entrée solennelle dans Moscou. Elle a 33 ans et elle règne seule depuis 2 mois sur le pays. Dans quelques jours, son couronnement parachèvera sa conquête. Elle veut l'exercer en poursuivant l'œuvre de modernisation de la Russie entamée par les premiers Romanov. Elle décide de s'attaquer à l'épineuse question des serfs pour moderniser l'économie du pays. En Russie, au XVIIIe siècle, et cela depuis le Moyen-Âge, les paysans sont des serfs, des travailleurs attachés à la terre et qui sont donc les propriétés de ceux qui possèdent le sol. Maltraités, affamés, les paysans n'arrêtent pas de se révolter, mais l'aristocratie est attachée au servage parce que c'est la source de sa richesse. En tant que souveraine éclairée, Catherine veut réformer le pays en s'appuyant sur les intellectuels. À la fin des années 1760, elle demande à la nouvelle société libre d'économie de réfléchir à la question du servage. Si la terre appartient aux paysans, est-ce qu'elle permet de générer plus de profits ? Qui travaille mieux ? Les serfs ? Ou les paysans libres. Mais toutes les discussions tournent mal parce que les aristocrates sont farouchement opposés à la fin du servage. La grande réforme de Catherine tombe à l'eau. Mais peu importe, elle se bat sur d'autres fronts, y compris sur des fronts militaires.
La grande Catherine a remodelé les frontières occidentales de son empire. Mais la guerrière est aussi une femme sensuelle à qui on prête d'innombrables amants. Mais est-ce que tout ça est bien vrai ? Je vous raconte les secrets d'alcôve de Catherine dans un instant. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Ce week-end,
week-end sur Europe 1.
Ce soir, de 20h à 21h, Jacques Vendroux reçoit la navigatrice Marita Barly.
Elle vient de remporter un tour du monde à la voile à bord du bateau construit par son père, Éric Tabarly.
Demain, à 9h moins le quart, Léa Drucker, à l'affiche du film Un homme en fuite,
est l'invitée de Julia Vignali. Et de 17h à 18h, émission spéciale.
Enrico Macias fête ses 60 ans de carrière avec Didier Barbelivien.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
L'Asie du Sud-Est en croisière, votre destination à vivre à l'occasion d'une croisière unique avec Paris Match et Voyage Exception de Singapour à Bangkok, de Hanoï à Hong Kong, des secrets et des merveilles en 8 escales du 4 au 19 février 2025. Informations et réservations dès maintenant au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques.
Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire. Virginie Giraud.
Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de la Russie à travers ses tsars. Vous allez voir comme c'est éclairant pour comprendre le présent. Avant l'interview de l'historien Pierre Gonneau, qui va nous parler du rapport au pouvoir des tsars d'Ivan le Terrible à Poutine, on termine l'histoire de Catherine II de Russie. Elle a modernisé son empire et a fait des conquêtes. Elle n'en reste pas moins une femme.
À la même époque, Catherine commence à se lasser de Grigori Orlov. Il est volage et surtout, il ne cesse jamais de lui faire sentir qu'elle lui doit le pouvoir. Mais la tsarine a déjà remarqué un autre Grigori. Le beau Potemkin, rencontré le jour de son coup d'état, s'est élevé dans l'armée grâce à ses qualités. Il devient le nouvel amant de la reine et même son grand amour au point d'accepter de l'épouser morganatiquement. C'est-à-dire que le mariage est officiel sur le plan religieux, mais officieux sur le plan social. C'est un secret si vous préférez, mais les sentiments sont bien là. Comme Potemkin l'écrit dans ses lettres, il est prêt à verser son sang pour sa gloire. Et il va en avoir l'occasion, car Catherine la Grande est une reine de guerre. Elle souhaite étendre son territoire vers l'ouest pour avoir un accès à la mer Noire, ce qui implique des conquêtes sur les territoires polonais et ukrainiens. En réalité, ce qu'elle appelle son « projet grec » va bien au-delà. Elle veut reconstituer une partie de l'ancien empire byzantin au profit des Romanov. Mais pour ça, il faut reprendre des terres sous domination ottomane depuis plus de 3 siècles. La guerre contre les Turcs a été préparée par une longue entreprise de déstabilisation. Des agents russes infiltrés sur les territoires convoités poussaient depuis des années les peuples d'Europe centrale à la révolte contre les Ottomans. Et de fait, en Ukraine, une partie de la population voudrait rejoindre l'orbite russe. Oui, je sais. Ce que je vous raconte vous paraît très contemporain. Mais tout ça se passe au XVIIIe siècle, et c'est une vieille histoire que la Russie ne cesse de reproduire. À partir de 1768, les offensives russes sont couronnées de succès jusqu'à Bucarest. En 1771, les menées vers le sud aboutissent à la prise complète de la Crimée. L'Autriche et la Prusse commencent à s'inquiéter de l'expansion russe. Pour régler ce problème, Catherine choisit la voie diplomatique. En 1772, la Russie, l'Autriche et la Prusse se partagent la Pologne. Quelques mois plus tard, de nouvelles négociations mettent fin à la guerre contre les Turcs. Catherine a désormais la main sur les territoires autour de Kherson. Les pourtours de la mer d'Azov sont censés devenir indépendants, mais Catherine annexe finalement la Crimée en 1783. Elle fonde la ville de Sébastopol et amorce une politique de peuplement chrétienne en y envoyant des Russes et des Ukrainiens. Les Tatars, les habitants musulmans d'origine turque de Crimée devenus minoritaires, finissent par être persécutés. Quelques années après l'annexion de ce territoire, Catherine II fait une visite en Crimée. On raconte que Potemkin, son amant, aurait voulu lui cacher la misère de la région en construisant des décors sur le passage de son cortège qui devait cacher la misère des villages traversés d'où l'expression de « village Potemkin », créé en Allemagne pour désigner ces constructions en trompe-l'œil au service d'une propagande. Mais étendre le territoire de la Russie n'est évidemment pas le seul objectif de la tsarine. Ouverte à la culture et au progrès, elle promeut tout ce qui peut apporter de la modernité. Sur le plan de la santé d'abord, elle favorise la généralisation de la variolisation pour résister aux épidémies souvent mortelles de variole. Sur le plan culturel, elle amène les Lumières en Russie. Elle tisse des liens privilégiés avec l'encyclopédiste Diderot boudé à Paris par Louis XV. Elle le reçoit même pendant une année dans sa cour. Elle cherche aussi à faire venir Voltaire, avec qui elle a une correspondance soutenue. Mais fâchée d'avoir servi de divertissement à Frédéric II de Prusse, le philosophe refusera toujours de se déplacer à Saint-Pétersbourg. Réformatrice, guerrière, progressiste, Catherine la Grande mérite bien son épithète. Elle est souvent admirée et crainte dans les cours européennes. Mais comme elle est une femme, ses ennemis vont tenter de salir sa réputation. Les mauvaises langues ont fait d'elle une nymphomane qui aurait eu une chambre d'amour secrète remplie d'œuvres d'art pornographiques et de jouets érotiques. Je vous le dis tout de suite, aucun historien sérieux ne peut prouver l'existence de cette pièce. Cependant, c'est vrai que Catherine était une amoureuse. Elle avait besoin d'avoir un homme dans son lit. Elle n'avait pas envie d'un harem, mais d'un partenaire capable de la combler émotionnellement et physiquement une fois ses longues journées de travail terminées. Les années passant, le désir s'est flétri entre Catherine et Grigori Potemkin. En époux prévenant, comme Madame de Pompadour l'avait fait pour Louis XV, le bel officier vieillissant part à la recherche de jeunes soldats fringants à mettre dans le lit de sa femme. Ces jeunes hommes étaient parfois débourrés par des amis de la tsarine, si vous me passez cette comparaison équestre. Même si certains d'entre eux ont été fascinés par Catherine, devenue avec le temps une petite femme mûre au charme décuplé par son assurance, beaucoup ont profité des largesses qu'elle leur prodiguait. Avec ses favoris, les rapports sont plus simples qu'avec son fils. Catherine et Paul se détestent. Le Tsarevitch est faible et versatile, comme Pierre III, dont on ne saura jamais s'il était son père ou non. En revanche, la tsarine adore son petit-fils, Alexandre, qu'elle a confisqué à son fils et à sa belle-fille, comme Élisabeth l'avait fait avec Paul. Le peu d'estime qu'elle a pour son fils l'a conduit à penser qu'il fera un mauvais souverain. Elle tente donc de l'écarter de sa succession au profit d'Alexandre. Dans les derniers jours de...
La Russie qui précède la Russie bascule dans le christianisme orthodoxe, tandis que la Pologne, qui est juste à côté, est christianisme de rite latin.
Alors à quoi ressemble cette Russie au XVe siècle, au moment où l'Empire byzantin s'effondre? Quelles sont ses frontières?
Alors c'est entre l'Oka et la Volga, c'est le cœur du pays russe, avec une mosaïque encore de principautés qui vont se rassembler autour de Moscou entre la fin du XVe et, disons, les années 1520. Ce rassemblement des terres russes qui est vu vraiment comme une œuvre positive, une œuvre qui prépare l'avènement de la puissance russe, est l'œuvre du grand-père et du père d'Ivan le Terrible.
Alors comment ça commence justement ce rassemblement de la Russie? Il faut constituer finalement une sorte de pays, de royaume, à partir d'une mosaïque.
Oui, c'est-à-dire ils avaient l'avantage d'avoir des liens de parenté, donc les princes qui régnaient dans ces différents territoires, mais chacun avait son domaine. Et là, Moscou, qui commence à petit à petit à l'emporter, va annexer ces territoires, de manière en général assez violente, mais en présentant ça comme un rassemblement et la restauration de ce qu'était l'ancienne Russe du Xe siècle. Et donc le monarque russe va toujours se présenter comme récupérant des choses qui lui appartiennent et non pas comme annexant les pays des autres. Et ça, c'est une grande doctrine.
Et elle existe, cette Russe du Xe siècle, ou c'est un fantasme?
Elle existe, effectivement. Donc là, on va dire entre Kiev et la mer Baltique. Et elle avait formé un ensemble, mais elle s'est très vite morcelée, cela dit d'une manière logique, dynastique. Et après l'invasion mongole, après cette domination, effectivement, elle s'est fractionnée de manière plus radicale. C'est-à-dire qu'une partie vers le nord-est est, disons, à peu près autour de princes russes et sous domination mongole, et le reste était passé sous la tutelle des Lituaniens, puis de la Pologne-Lituanie. Et là, évidemment, la Russie moscovite va prétendre récupérer ce qui est à elle au détriment de la Pologne.
Donc le premier tsar à se faire officiellement couronner ainsi, c'est Ivan le Terrible. Il marque un tournant dans l'histoire de la Russie ?
Ah oui, 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 absolument. Jusque-là, c'était des grands princes de Moscou, donc c'était un système de pouvoir, mais qui avait quand même une certaine collégialité avec les princes cadets, qui avaient des apanages, et avec l'aristocratie. Et là, ça devient le monarque absolu, l'autocrate. Alors, on a en russe samodiage, ce qui est le calque du mot grec. Et donc, tout le pouvoir vient de lui et ne peut être que délégué.
Ivan le Terrible a changé l'histoire de la Russie, c'est un tournant. Dans quelle mesure il contribue à installer l'autocratie dans son pays ?
Alors, on le voit à travers ses œuvres, parce qu'il écrit lui-même, et ses œuvres sont authentifiées, il y avait eu quelques doutes là-dessus. Il se voit comme le tsar, donc le souverain, le maître absolu, et les autres, y compris les membres de l'aristocratie, comme des esclaves. Il emploie le terme « rab », alors on pouvait l'employer en France aussi en disant « je suis votre très humble serviteur », mais il ne le voit pas de la même façon, quand même. Donc, il n'y a qu'un seul homme vraiment libre et responsable devant Dieu, c'est lui.
On ne va pas pouvoir faire toute l'histoire de la Russie sur 350 ans, mais comment évolue cet empire russe, disons, entre Ivan le Terrible et Catherine II, dont on a parlé ici au cœur de l'histoire ?
Eh bien, il va s'étendre à l'Est assez facilement, jusqu'au Pacifique, et puis après, il ira même au XVIIIe siècle jusqu'en Alaska. Là, il n'y a pas d'État constitué qui lui fait obstacle. Et à l'Ouest, par contre, ce sera une lutte politique contre la Pologne, contre la Suède, contre l'Empire ottoman. Et donc, à chaque fois que la Russie avance, évidemment, les autres reculent. Il y a des jeux d'alliance, mais la Russie va arriver comme ça jusqu'à, sous Catherine II, faire disparaître la Pologne et, d'autre part, la Crimée, le Khanat Tatar de Crimée, qui était vassal de l'Empire ottoman. Donc la Russie contrôle tout le pourtour de la mer Noire, enfin les rivages nord, et d'autre part, a annexé Biélorussie et à peu près la totalité de l'Ukraine actuelle.
Alors depuis justement Catherine II, qui a fondé Sébastopol en Crimée, est-ce que les Russes considèrent vraiment que la Crimée, c'est la Russie, ou est-ce que c'est purement stratégique pour avoir une ouverture sur les mers du Sud ?
Ethniquement, ce n'est pas encore la Russie, puisque la majorité de la population est tatare de Crimée. Mais ils
sont des musulmans, c'est ça ?
Oui, et turcophones, et ils vont petit à petit... Évidemment, presque hyper pour un bureau, c'est pour un déop, et donc un bureau et je le dérange. Ah, c'est tout conseil d'être très bien. D'en éviter, exactement, mais on semble être absent d'idées de médias ciel, on va dire, qui débattaient entre eux. Et ça a disparu petit à petit entre 2000 et, on va dire, 2014. Et depuis 2014, on sent qu'il y a un raidissement de plus en plus fort.
Donc je repose ma question, c'est quoi le régime de la Russie aujourd'hui ?
Alors, c'était au départ, tel que ça prenait la direction, c'était celle d'un régime présidentiel à l'américaine. Et maintenant, c'est à nouveau une autocratie, on va dire, où le Parlement a un rôle décoratif.
Est-ce que finalement, le tsarisme, l'autocratie est si ancré dans l'ADN russe, dans le sang, l'âme russe, que finalement, la Russie ne peut pas être autre chose qu'une autocratie ?
Bien, elle ne s'est pas donné beaucoup l'occasion d'essayer autre chose. Il y a eu, dans ces années 90 quand même, un petit peu de débat, de pensée, ça c'est sûr, et puis même de pratiques un peu différentes. Mais il y a la peur du déclin qui joue comme un réflexe pour dire il faut éviter tout ce qui est morcellement, tout ce qui est même régionalisation paraît un danger. Donc effectivement, l'un des arguments de Poutine qui était rétablir la verticale du pouvoir, ça passait très bien. Mmh. À une époque où l'économie allait mal et où on avait l'impression que le pays était dépecé par des gens avides.
Quel est le rapport de Poutine à l'histoire des tsars? Il se voit un peu comme un de leurs descendants, un héritier?
Héritier de leur puissance, ça c'est sûr, et héritier de l'idée que la Russie a un rôle éminent à jouer. Comme il dit très souvent, la Russie est un pays indépendant qui a pu parfois avoir des alliés, mais qui a toujours mené sa politique, et donc ça, il y tient beaucoup. Ce qui veut dire en creux qu'il ne veut pas être à la remorque d'un quelconque État hégémonique, évidemment les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, oui, il est héritier d'un grand passé et pendant son règne, il a beaucoup cultivé une politique de monuments commémoratifs. Alors, à la Première Guerre mondiale, ce qui était nouveau, on l'a réhabilité en quelque sorte, mais aussi au passé tsariste et même au passé d'avant.
Merci beaucoup Pierre Gonod pour cet éclairage sur l'histoire de la Russie et des tsars. Je rappelle que l'un de vos livres, La guerre russe ou le prix de l'Empire d'Ivan le Terrible à Poutine, est paru aux éditions Talendier. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour percer les mystères de la franc-maçonnerie entre la fin de l'Ancien Régime et le Premier Empire. Alors, est-ce que Napoléon était franc-maçon? Est-ce que ce sont les francs-maçons qui ont pris le contrôle de la Révolution? Eh bien, vous saurez tout demain. J'en profite pour vous rappeler qu'Au cœur de l'histoire sort d'abord en podcast. C'est gratuit et sur toutes les plateformes. Il y a un épisode par jour. Si vous allez voir maintenant sur votre appli d'écoute, vous trouverez un grand récit sur Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle est la seule de la famille à avoir survécu à la Révolution après avoir vécu l'enfer à la prison du Temple. C'est une histoire peu connue mais passionnante, vous allez voir. Et puis demain dimanche, vous avez rendez-vous avec William Lémergie pour Balade en France. Chaque dimanche matin à 11h jusqu'à 12h30, il vous emmène visiter le patrimoine dans Balade en France. Alors évidemment, il y aura plein d'endroits que vous allez visiter. Demain dimanche, vous irez à Bourges, vous irez dans l'Eure-et-Loire, vous irez dans la Vienne, à Buxerolles et aussi, vous rencontrerez Patrick Timsit,